À la suite du Liberation Day, au cours duquel Donald Trump a imposé des droits de douane à l'ensemble du monde, il a ainsi précipité les marchés financiers dans des montagnes russes dont ils ne sont pas encore sortis, même après la pause qu'il a ordonnée pour la totalité des pays ayant cherché la négociation, c'est-à-dire tous, sauf la Chine qui s'est lancée dans la surenchère. Au dernier décompte, les tarifs des droits de douane américains sur la Chine sont de 145% et ceux de la Chine sur les produits américains de 125%. Le reste du monde, en dépit de la pause, se voit toujours imposer des droits à 10%. Et la tectonique des plaques géostratégiques est chamboulée. Ne comprenant pas vraiment ce que Trump cherche à faire, même s'il cherche à faire quelque chose de particulier ou s'il rebondit simplement de Foucault dans Caprice, l'Europe tergiverse et des voix s'élèvent pour proposer une alliance avec la Chine, lequel tend également la main en direction de l'Europe. Et le fait est que depuis quelques jours se dessine un nouveau grand jeu dans lequel l'influence sur l'Europe est remise en question. Elle paraît s'éloigner du pôle américain et les Chinois peuvent y voir une occasion de faire basculer le monde vers leur modèle eurasiatique. Une fois encore donc, le vieux continent se retrouve au centre du jeu et de son arrimage dépendra le sort de la stratégie de Trump contre la Chine, une stratégie du choc. Bonsoir, je suis Philippe Fabry. Nous sommes le 11 avril 2025, il est 21h45. Nous sommes en compagnie de l'inestimable Léo Portal pour cette émission. Comment vas-tu, mon cher Léo?
Fatigué, et toi, mon cher Philippe?
Je suis également assez épuisé, surtout que j'ai une petite escapade à Paris demain, où j'aurai une émission en fin de journée sur une grande chaîne d'infos. Je ne vous en dis pas plus, l'annonce sera faite demain. Mais réservez votre créneau pendant le dîner, on va dire. C'est ça. Ce soir, alors petite actu, les souscripteurs auront remarqué qu'il y avait eu un problème avec le bulletin, problème que j'ai réussi à régler, mais comme vous le saviez, puisque j'en avais parlé un peu, je crois, dans la dernière vidéo que j'avais publiée, j'avais des gros problèmes de fibres qui n'ont été réglés que début de semaine. Mais voilà, a priori, on va réussir à retomber sur nos pattes. À partir de maintenant, à la fin de cette émission, nous enchaînerons avec un live privé des souscripteurs, comme d'habitude, dans lequel je répondrai aux questions de nos chers abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, qui ne veulent pas souscrire, mais qui veulent poser une question et être sûr que j'y répondrai, parce que on a parfois des questions qui sont sélectionnées par la bonté d'âme de Monsieur Portal. Ben à ce moment-là, vous la faites avec un petit don et j'y réponds pendant ce live. Voilà, c'est-à-dire que nous reprenons simplement les formats normaux après donc cette parenthèse de la semaine dernière où j'avais quand même pris le temps de vous tourner une petite vidéo explicative. Du sens que moi je donnais à cette question des tarifs, c'est-à-dire une tentative de remettre, de réorganiser finalement l'espace impérial américain en vue de prochains mouvements. Et je prenais un parallèle en particulier qui était le parallèle du XVIIe siècle français. Ce sont des choses dont je parle dans le dernier bouquin, Alcisar. Et donc je voudrais revenir là-dessus. Pour commenter avec ce qu'on a vu depuis, puisque les événements se dévoilent peu à peu, et donc ça permet de réajuster ou de commenter ou de vérifier un certain nombre de choses qu'on voit. Et puis aussi repartir un petit peu en arrière, parce que c'est l'occasion de réexpliquer d'où vient ce parallèle simplement avec la France du XVIe siècle. Alors, je ne vais pas repartir sur tout le modèle historique de construction des nations, j'en parle suffisamment souvent. En dernier lieu, je renvoie à la vidéo La mécanique de l'histoire où j'avais tout bien détaillé tout ça. Simplement spécifiquement pour comprendre où on en est aux États-Unis, rappeler, et en faisant le parallèle avec ce qui s'est passé dans l'histoire de la France, comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la trajectoire américaine et pourquoi donc il se passe ce qui s'est passé en France au XVIIe siècle. Alors, si vous regardez, je rappelle donc la trajectoire américaine. La trajectoire américaine, elle commence donc au XVIIe siècle, hein, à un moment où la trajectoire française qui commençait au Moyen-Âge est déjà bien avancée, naturellement. Mais aux États-Unis, en fait, le XIXe siècle correspond, enfin plutôt le XVIIIe siècle correspond à la phase, on va dire, tout début de la phase féodale, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pouvoir centralisé, c'est-à-dire que les colonies sont séparées les unes par rapport aux autres, et tout ceci commence à se structurer vaguement avec les articles de la Confédération, c'est-à-dire au moment de l'indépendance, hein, vous savez que les articles de la Confédération, ça a duré que quelques années, mais c'était le premier mode de gouvernement collectif des 13 colonies. Ensuite, il y a eu la Constitution qui a été adoptée en 1787, mais avant ça, pendant les 11 premières années de la vie des États-Unis, c'était ce qu'on appelait les articles de la Confédération, c'est-à-dire les articles qui établissaient le fonctionnement confédératif. Hein, ce n'était pas encore une fédération confédérative donc des États-Unis d'Amérique. Avec les articles de la Confédération, c'est vraiment le minimum de la création d'un État. C'est l'équivalent, si vous voulez, de ce qui s'est passé avec les tout débuts de la monarchie capétienne en France, c'est-à-dire avec Hugues Capet, quoi. C'est-à-dire que vous avez une autorité centrale qui n'est vraiment qu'une autorité, qui a pratiquement pas de pouvoir, qui a un pouvoir militaire, mais tout le monde c'est dans le cadre de la guerre d'indépendance, donc c'est extrêmement ad hoc, en fait. Et y a véritablement aucun moyen de s'imposer, il n'y a pas de pouvoir de s'imposer aux États. La réalité du pouvoir, c'est la réalité des États. Et si vous voulez, dans les articles de la Confédération, si on regarde la façon dont on distribue le pouvoir, parce que c'est ça la question, vous avez les États fédérés, et ça sera le cas durant toute l'histoire américaine jusqu'à aujourd'hui. Les États fédérés sont l'équivalent de ce qui, dans l'histoire de la construction nationale des cités-États, sont les gros propriétaires fonciers, et ce qui, dans l'histoire d'un pays comme la France, au Moyen-Âge, était les très grands feudataires, c'est-à-dire les ducs, hein, si vous voulez, donc les types qui avaient des très gros fiefs, ou gens qui avaient un comté très important, comme le comté de Toulouse, par exemple, qui étaient les très très grands et qui étaient des vassaux qui n'avait que le roi comme suzerain, en fait, et qui était en réalité quasiment indépendant, puisque le roi était moins puissant qu'eux, hein, il était un seigneur, si vous le preniez comme seigneur, un seigneur moins puissant qu'eux. Donc on était un petit peu dans cet ordre-là de pouvoir, et ça change assez peu avec l'adoption de la Constitution. Mais la Constitution crée, malgré tout, une idée du pouvoir central, en créant la fonction de président des États-Unis d'Amérique, qui désormais tirait son autorité du vote du peuple, ce qui n'était pas le cas dans les articles de la Confédération. Donc ça crée, si vous voulez, un embryon de pouvoir central. Et là, c'est grosso modo ce qu'était le Royaume de France, on va dire, sous Louis VI le Gros. C'est-à-dire, on est déjà au début du XIIe siècle. Le règne de Louis VI le Gros commence en 1108, et le règne de Louis VI le Gros, il est marqué par la théorie de l'abbé Sugère, ça doit vous rappeler des trucs. Peut-être des cours de primaire, parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on l'étudiait à mon époque, l'abbé Sugère, avec la théorie notamment de la mouvance des fiefs. La mouvance des fiefs, c'était cette idée que le roi de France est par principe le suzerain de tous les seigneurs qui sont dans le royaume de France. L'idée, c'était le roi de France ne peut pas être le vassal d'un de ses propres vassaux. Ce serait pas logique. Donc forcément, il est le suzerain en dernière instance de tout le monde. Et donc tous les fiefs sont ce qu'on appelle des fiefs mouvants de la couronne. C'est-à-dire que même si vous êtes un seigneur quasi indépendant, eh bien, il demeure que, en droit, vous appartenez en réalité à quelque chose qui dépend du roi de France. Donc, même s'il n'a pas de pouvoir, ça donne une autorité au roi de France à l'époque, et c'est ce qui a permis à Louis VI le Gros, même s'il était encore assez peu puissant à l'intérieur du royaume, de prétendre jouer un rôle à l'échelle du royaume entier, c'est-à-dire en dehors de ses propres possessions. Donc c'est vraiment le passage d'un seigneur parmi d'autres à qui on dit vaguement ok d'accord c'est toi le roi à un roi qui véritablement va décider par exemple d'arbitrer des querelles entre seigneurs etc. Donc c'est un premier rôle qui apparaît et ça c'est ce qui se passe avec l'apparition on va dire de la fonction de président des États-Unis qui au début est malgré tout très faible par rapport aux États fédérés mais on a déjà cette chose qui apparaît et comme d'habitude, comme dans la construction de toutes les nations, vous avez ce pouvoir, le pouvoir, on va dire, féodal par excellence, qui est donc le pouvoir des États fédérés aux États-Unis, va progressivement diminuer au regard d'un pouvoir central, en l'occurrence l'État fédéral, qui lui va se renforcer. C'est pas du tout exagéré quand je parle de pouvoir féodal, on va dire, au niveau des États fédérés, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis, au XIXe siècle, la politique n'avait pas du tout le niveau de maturité, on va dire, qu'il avait en Europe. Dans le sens où le jeu politique aux États-Unis au XIXe siècle, c'est du clientélisme à tous les étages, mais du clientélisme absolu. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ceux qui se mettent en place des structures, les political machines, avec à leur tête un boss, un patron, hein, c'est du patronage, ça s'appelle aussi, c'est du clientélisme. Et en fait, c'était et ça fonctionnait à toutes les couches. C'est-à-dire que ça fonctionnait au niveau de la ville. Hein, vous aviez un boss hein, qui tenait un certain nombre d'associations, de syndicats, trucs comme ça. Parfois, souvent, qui n'avait même pas lui-même de fonction politique. Hein, c'était pas lui le maire, etc. Mais c'était lui le vrai chef. Voilà. Il plaçait des pions partout à lui. Et son autorité était fondée sur le fait que c'était lui qui distribuait les places. C'est-à-dire que aux États-Unis, ça existe encore un peu, mais ça a été très très limité à partir des années 1880. Vous avez le spoil system, ce qu'on appelle en français le système des dépouilles, mais qui en réalité serait mieux traduit par le système du butin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui gagne l'élection gagne la caisse politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va à chaque fois changer toute l'administration, donner des postes à ses copains. Et donc, les political machines ne sont pas tellement des choses idéologiques, ce sont des groupements d'intérêts de gens, des gangs, en fait, si vous voulez, politiques, qui cherchent à prendre le pouvoir. Et donc ça, c'était à tous les... Donc vous aviez des machines politiques comme ça, rurales, vous avez des machines politiques dans les villes, et à la fin, naturellement, l'État fédéré lui-même n'était que... vous aviez une grosse machine politique à l'échelle de l'État fédéré qui coordonnait les machines politiques en dessous. C'est donc comme ça que ça se passe. C'est une espèce de pyramide comme ça, avec des machines politiques partout, et donc du clientélisme partout. Donc il faut bien comprendre que le système de gouvernement américain est extrêmement primitif par rapport à ce qu'on pouvait voir à la même époque en Europe, hein, en particulier dans des pays comme l'Angleterre ou comme la France. Où assez rapidement, on était en train de rentrer dans un régime parlementaire, donc vous aviez du clientélisme politique. Mais ce n'était pas du tout à ce niveau-là, déjà, parce qu'on héritait d'un État avec des recrutements de fonctionnaires qui se faisaient sur concours, etc. Ça datait déjà de la monarchie. Donc, et ça avait été encore plus mis en place à partir de la Révolution, ce qui fait qu'il y avait quand même l'appareil d'État, l'administration était censée échapper à la distribution purement électoraliste. Donc, il n'y avait pas ce côté-là, ce côté véritablement quasi mafieux, si vous voulez. Mais la mafia, c'est ça, mais en illégal, en général. Or là, c'était admis, c'était partout, c'était la nature sociale. C'était similaire, en fait, à ce que vous trouviez dans la Rome antique, d'ailleurs, avec le système de la clientèle. Hein, c'était pareil, avec les sénateurs qui avaient leur clientèle. Et c'est pour ça que, quand vous pensez à la République romaine des débuts, on a souvent cette erreur, ça c'est une erreur qu'il faut vraiment sortir de la tête, et il faut se la sortir de la tête en général d'ailleurs. Souvent quand vous avez, une parenthèse, quand vous étudiez à peu près n'importe quel pays, sauf le vôtre souvent, en tout cas ceux que vous connaissez le mieux, vous avez une image figée du pays au moment de l'histoire où vous le connaissez le mieux. C'est-à-dire qu'en gros, la Rome antique, la plupart des gens connaissent surtout la fin de la République. Hein, ce dont tout le monde parle, c'est Jules César, etc. Donc c'est ça la vision qu'on a de la République romaine, par exemple. Et c'est une énorme erreur, parce que du coup, quand vous réfléchissez, que vous prenez ça, la République romaine telle qu'elle était, avec ses représentations, ses bâtiments, la taille de la ville de Rome, etc., les mœurs politiques, tout ça, si vous allez 500 ans en arrière à la naissance de la République romaine, ça n'avait strictement rien à voir. Il y a le même fossé, si vous voulez, qu'entre Philippe Auguste et puis Louis XIV. Vous voyez, c'est véritablement pas le même pays, c'est pas le même système social, c'est pas le même système administratif, c'est rien de tout ça. Il y a quelques trucs en commun, hein, c'est une société d'ordre, par exemple, pour la France entre Louis XIV et Philippe Auguste, mais vous n'avez pas du tout la même chose. Hein. D'un côté, vous êtes dans le monde de la chevalerie, de l'autre, vous êtes déjà dans l'état moderne. Ça change tout à fait. Ben, c'est pareil, peut-être même encore pire dans l'histoire romaine. Si vous regardez la Rome du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est quelques milliers d'habitants. Les sénateurs, c'est juste des gros propriétaires fonciers locaux, mais qui sont des quasi-clodos si vous les comparez aux oligarques d'Athènes à la même époque. Hein. Donc, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir, justement. Les sénateurs romains ressembleront aux oligarques d'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle avant Jésus-Christ, pas avant. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Donc quand vous regardez les États-Unis, c'est pareil. Il faut vous sortir de l'idée que ce que vous voyez aujourd'hui, alors heureusement, on est un peu plus renseigné, mais sur cette bossisme des political machines, etc., vous ne le voyez pas trop. Peut-être dans un film comme. Gangs of New York, par exemple, ça donne une idée après de comment fonctionnait la politique aux États-Unis à ce moment-là, et vous comprenez ce que je vous dis quand je vous dis que c'était véritablement féodal au niveau des structures sociales. Et donc ça commence à changer véritablement à partir de, enfin, le premier basculement extrêmement important qui se fait, qui est l'équivalent du basculement, on va dire, qui se passe justement sous Philippe Auguste. Hein. Philippe Auguste, c'est le moment où, on va dire, l'unité du royaume est enfin faite sous l'autorité du roi, hein, puisque Philippe Auguste est celui qui augmente le domaine royal, qui récupère toute l'Aquitaine, qui récupère tout le nord, enfin, il récupère tout, hein, tout ce qui avait été piqué, pas par les Anglais, mais par les Plantagenets, hein, qui régnaient sur les Anglais aussi, mais enfin, qui n'étaient pas plus Anglais que ça. Et ça, en fait, ça se passe à l'équivalent, si vous voulez, c'est la guerre de sécession, très clairement, puisque la guerre de sécession, c'est en réalité l'État fédéral qui, par la force, et en s'appuyant sur certains États fédérés fidèles à l'État fédéral, va s'imposer aux États fédérés qui, eux, étaient en révolte, d'une certaine manière. La guerre de sécession, vous pouvez l'interpréter dans un cadre féodal comme la révolte des grands vassaux, qui refusent la centralisation. C'était véritablement ça. Et donc, ils préfèrent faire sécession, dire non, on reste indépendant, hein, comme le comté de Toulouse, par exemple, et bien, il se prend la croisade contre les Albigeois sur la tronche, hein. Comme la croisade contre les Albigeois, d'ailleurs, qui était en gros, ah, salaud, vous êtes cathares, vous êtes des hérétiques. Avec la lutte contre l'esclavage, il y a quand même un truc comme ça aussi, c'est-à-dire que ça sert de d'étincelle à l'allumage, si vous voulez, et ensuite de justification du conflit. Mais il y a un mouvement qui est beaucoup plus profond et qui vient de la lutte d'influence entre l'État fédéral et les États fédérés. Et donc cette évolution-là, ce basculement, finalement, cette première sortie de la féodalité, l'entrée véritablement dans une sorte de gouvernement impérial avec un prince qui est capable de s'imposer à tous ses vassaux, ça se passe donc avec à l'issue de la guerre de sécession, qui est encore une fois l'équivalent du règne de Philippe Auguste, si on veut regarder. Et ensuite, vous avez au XXe siècle deuxième basculement très important, début du XXe siècle, qui correspond à ce qui s'est passé entre Philippe le Bel. Alors en France, ça s'est un peu étiré parce que ça a été perturbé par la guerre de Cent Ans, mais grosso modo, c'est des évolutions qui ont eu lieu entre Philippe le Bel et Charles VII, ou Louis XI si vous étendez un peu, c'est-à-dire la mise en place des États généraux. Alors les premiers États généraux, c'est sous Philippe le Bel, les premiers vrais, entre guillemets, États généraux, c'est en 1454, premier vrai dans le sens où il y avait des représentants de la totalité du territoire. Alors que Philippe le Bel, on est vraiment sur des représentants du cœur historique de la France, c'est-à-dire le nord de la France, bassin parisien, tout ça. Mais bon, c'est dans le même mouvement, si vous voulez. L'imposition qui est décidée, c'est-à-dire l'État, le roi qui devient capable de lever des impôts directs, donc fiscalité, et la fiscalité permet, vous savez, j'en parle souvent, permet de mettre en place une armée permanente, et l'armée permanente, inversement, vous permet de vous assurer que la fiscalité continuera à rentrer. Bon. Ça, c'est ce qui s'est passé au début du XXe siècle aux États-Unis, avec la mise en place de l'IRS, l'Internal Revenue Service, donc perception de l'impôt direct sur le revenu. Jusque-là, l'État fédéral, d'ailleurs c'est un truc dont Trump parle souvent, l'État fédéral était financé par des droits de douane, par des taxes indirectes, pas par des taxes directes, donc l'IRS, couplé avec la Fed, la Réserve fédérale, donc Banque centrale, 1913. Un peu avant ça, en 1908, vous avez eu la création de la première police fédérale, le FBI, qui s'appelait pas le FBI au début, mais qui est devenu assez rapidement le FBI, au début des années 20, je crois que c'est devenu le FBI. Le Bureau fédéral d'investigation, c'est-à-dire la police fédérale, hein, tout simplement, qui peut s'imposer aux polices locales, etc., sous condition, mais enfin, c'est une force armée de contrôle qui va s'imposer aux États. Et bien sûr, l'armée qui va se déployer pendant tout le siècle qui va suivre, d'abord pendant la Première Guerre mondiale et après, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, l'armée ne redégonflera plus comme elle l'avait fait dans l'entre-deux-guerres et restera, et là vous aurez l'apparition du complexe militaro-industriel. Et l'apparition du complexe militaro-industriel, qui est une suite en fait de l'imposition, parce que l'apparition d'une imposition centrale permet de centraliser les ressources, et à partir de là, ça permet encore plus de s'imposer sur l'ancienne aristocratie, notamment les États fédérés, et de créer une nouvelle classe ou une nouvelle structure dirigeante à la place des anciens. C'est-à-dire que ce qui va devenir de plus en plus important au XXe siècle, plus que qui va dépasser ce qu'était le pouvoir des États fédérés avant. Avant, vous aviez un pouvoir fédéral qui était face aux États fédérés, et désormais, vous avez un pouvoir fédéral qui va grossir énormément et qui va créer notamment ces énormes agences, hein, la CIA, etc., ces ministères, ces gros départements, le département de l'énergie, le département de la défense. Et donc, ce sont toutes ces agences du pouvoir exécutif qui, en fait, dépendent du président, c'est ce que la théorie de l'exécutif unitaire, qui dépendent directement du président. Le vrai pouvoir, ça devient ça. Et c'est l'équivalent, ça, de la noblesse de robe, si vous voulez, et ce qu'on appelait les grands offices de la couronne pendant le XIVe et surtout XVe et XVIe siècle, avec donc le déploiement de la noblesse de robe, notamment l'apparition des parlements, c'est-à-dire les cours souveraines qui tenaient leur pouvoir du roi et qui servaient en fait à arbitrer les conflits entre les anciens seigneurs féodaux et finalement à remplacer leur pouvoir par une nouvelle noblesse qui était une noblesse de robe qui tenait principalement du roi. Et ça, c'est ce que j'appelle la phase oligarchique. Pourquoi oligarchique ? Ben parce que le pouvoir des anciens aristocrates, donc en l'occurrence les États fédérés, en France c'était donc les grands feudataires, est remplacé par des structures oligarchiques. Alors ça peut être des oligarques, hein, c'était le cas d'un certain nombre de grands féodaux, d'accord, sous la couronne, qui restaient très puissants dans ce système-là. Mais c'est surtout l'apparition de, je vous disais, ces grands offices, hein, donc ces fonctions de connétable, etc. Et aux États-Unis, c'est l'apparition de ces grandes agences de l'État américain, où se concentre en fait le pouvoir, où les élites cherchent à faire carrière, etc. Ça devient ça les vrais centres. Les gens ne sont plus tellement intéressés, quand ils le peuvent, à faire carrière dans les États fédérés. C'est plus là qu'est le pouvoir. Le pouvoir est dans l'État fédéral et il est notamment à Washington. Donc, si vous voulez être au cœur du pouvoir, vous êtes à Washington, vous n'êtes pas dans votre État fédéré. Voilà ce qui était la continuité, si vous voulez. Donc, tout ceci nous a amené en ce début de XXIe siècle. Qui est désormais bien entamé, hein, on en a passé un quart, dans lequel cette phase oligarchique, elle a déjà plus d'un siècle dans son amorce, et donc on est en train, ce que je dis, de basculer dans la phase absolutiste. Et la phase absolutiste, je l'ai déjà expliqué, c'est Donald Trump, et ça se fait toujours par une espèce de césarisme, le basculement absolutiste final. Parce que le basculement absolutiste se fait par un dégagement par le pouvoir central de l'oligarchie en s'appuyant sur la couche encore en dessous du pouvoir, c'est-à-dire une bourgeoisie montante, si vous voulez, qui n'est pas encore celle qui prendra le pouvoir à la Révolution, lors de la Révolution nationale, et ça c'est une bourgeoisie encore plus basse. Mais donc une bourgeoisie assez grosse qui essaie de faire sa place aussi, qui n'est pas intégrée encore à la noblesse de robe ou dans les couches inférieures et qui cherche à renverser tout ça. Et donc typiquement, ça donne en France la Fronde au début du règne de Louis XIV, dans lequel vous avez justement la noblesse oligarchique, c'est-à-dire les parlements qui essaient de prendre le pouvoir. Hein, c'est la Fronde parlementaire, c'est par ça que ça commence contre le jeune roi. Et le roi arrive à se défaire de ça en s'appuyant à la fois donc sur une partie de la bourgeoisie qui est concurrente de tout ça, donc en faisant monter des nouvelles élites comme Colbert et un certain nombre d'autres qui seront les grands ministres de Louis XIV. Et ensuite, c'est cette nouvelle classe en fait qui dirigera les Colbert, les Louvois, tout ça. C'est-à-dire des gens effectivement aussi anoblis, mais qui à nouveau tiennent exclusivement du roi et ne sont pas, comme l'était devenue la noblesse de robe, une espèce de nouvelle noblesse qui avait sa propre, du fait qu'elle était ancienne, elle avait déjà 200 ans, qui avait sa propre légitimité, si vous voulez. Donc c'est toujours une question de pouvoir central. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y avait du césarisme chez Louis XIV. D'ailleurs, probable que le fait d'être revenu beaucoup, de s'être fait énormément représenter justement à la romaine, vient aussi de là, de ce, alors que la Renaissance, ça c'est déjà plus d'un siècle, hein, donc il y avait une tradition de ça, mais Louis XIV l'a particulièrement fait, de se faire représenter comme empereur, etc. Donc ça souligne ce côté césarien. Et naturellement, il s'est passé la même chose à Rome au moment de l'arrivée de Jules César, c'est-à-dire la mise en place aussi de la même chose. Et pour Jules César, ça a été en s'appuyant sur la montée de la classe équestre, hein, qui était là aussi une classe de roture, hein, des gens issus de la plèbe, mais enrichis et qui contestait le pouvoir des sénateurs. Est-ce qu'on m'entend bien, Léo? Parce que j'ai l'impression que ma connexion est en rade. Non? Bah, j'ai aucun retour, alors je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, tant que j'arrive à faire une émission, c'est le principe. Donc, voilà, on est arrivé à ce stade de monter vers l'absolutisme. Et donc, ce que je disais dans ma dernière émission, qui n'est pas, si vous la cherchez parce que vous ne l'avez pas vue, ce n'était pas en live, hein, c'était dans les vidéos, ce n'est pas dans les diffusions en direct, donc voilà, que vous ne perdiez pas, c'était la semaine dernière. J'expliquais que on a été donc à ce mouvement absolutiste et que l'entrée dans l'absolutisme, ça se caractérise généralement par une politique assez mercantiliste, favorable à, enfin, d'une certaine manière favorable, mais comme, plutôt comme un bétail qu'on cherche à exploiter qu'autre chose, à une forme d'apparition de classe moyenne. Alors, une classe moyenne pas forcément très, très large, hein, mais disons le développement de quelque chose qui vise à moderniser la société. Et aussi et surtout donc la réorganisation fiscale afin que l'État central soit capable de maximiser, on va dire, les ressources qu'il perçoit et surtout d'organiser ces ressources contre l'extérieur. Et donc ce dont je parlais l'autre jour, mais pour le détail je renvoie à cette vidéo, c'est que c'est précisément ce qu'a fait Colbert avec ses tarifs. Ça avait ce nom-là aussi, en français, hein, donc vous pouvez le garder, avec ses tarifs de 1664 et 1667. D'une certaine manière, Trump fait les deux en même temps, parce que les tarifs de 1664, c'était une tentative de faire une union douanière et d'ordonner la perception des droits de douane en supprimant surtout des droits de douane plus qu'en en créant à l'intérieur du territoire français, territoire du royaume, donc qui était dominé par le roi de France. Et le tarif de 1667, là, c'est un tarif agressif qui est dirigé contre les ennemis et concurrents rivaux, si vous voulez, du royaume de France, en particulier l'Angleterre, qui est toujours un peu en avance sur l'industrialisation sur nous déjà à l'époque, et les Provinces-Unies, donc la Hollande, hein, en fait. Et le tarif de 1667, en réalité, a été un prélude à la guerre contre la quadruple alliance, qu'on appelle la guerre de Hollande, parce que, en fait, l'idée, c'était de casser cette espèce d'alliance qui s'était mise en place entre l'Angleterre, la Hollande, la Suède et la Prusse, contre la France. Et l'idée, c'était d'attaquer la Hollande, pour priver cette alliance en fait de la Hollande et laisser les mains libres à la France. Bon, ça sera une guerre relativement réussie du point de vue français, mais ça permettra toute la conquête de la Franche-Comté. C'est ça qui permettra à Louis XIV d'obtenir son surnom de Louis le Grand, hein, en particulier, puisque grâce aux importantes annexions qu'il a faites, ça se termine par la paix de Nimègue en 1679. Donc une guerre très importante pour l'histoire du royaume de France, parce que c'est cette guerre qui consacrera un petit peu la prééminence seule de la France sur le continent. Et c'est typiquement absolutiste. Vous savez que l'absolutisme, on parle souvent, l'absolutisme, c'est l'impérialisme initial, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui mène ensuite, il y aura l'impérialisme revanchard pendant la Révolution nationale, mais c'est le pays qui cherche à trouver déjà ses frontières et à organiser son espace. Or, les États-Unis, de ce point de vue-là, ils ont deux espaces, en fait, les États-Unis. Ils ont un espace qui est un espace national, on va dire, et ils ont un espace qui est un espace international. Parce que tout ce que je vous ai décrit là sur la montée et la création de l'absolutisme, ça, c'est pour l'ordre interne américain. Mais il y a aussi les États-Unis, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont un empire mondial, et donc ils ont aussi un ordre externe. Et au niveau de l'ordre externe, en fait, les États-Unis sont un petit peu au niveau en dessous. C'est-à-dire que l'ordre mondial a commencé à devenir un ordre féodal, à atteindre ce que j'ai appelé le stade féodal plus tôt, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est avec la mise en place, alors ça a essayé un peu avec la SDN avant, mais c'est surtout avec la mise en place de l'ONU, qui lui a son siège à New York, et ensuite la mise en place de toutes les grandes instances internationales, l'OMC, le FMI, etc., sous égide américain, et avec les États-Unis comme gendarme du monde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est extrêmement intéressant. Vous avez à l'échelle mondiale, c'est à ce moment-là que les États-Unis sont devenus un peu le prince des nations. C'est-à-dire que les États-Unis se sont présentés comme suzerains de l'ordre mondial. Ce qui ne signifie pas qu'il n'avait pas des vassaux d'une certaine manière qui étaient aussi puissants que lui, puisque il y avait d'autres pôles comme l'URSS, la Chine aussi dans une moindre mesure à l'époque, qui étaient des puissances autonomes, surtout l'URSS, et qui pouvaient rivaliser finalement. Mais donc, ce qu'on fait, en fait, à ce moment-là, si vous voulez, ça ressemble aux situations dans lesquelles vous aviez le premier roi de France, qui avait un gros seigneur qui était souvent leur rival, et les petits seigneurs, eux, qui à la fois servaient le roi de France, mais utilisaient un petit peu le gros seigneur rival comme contrepoids pour s'assurer que le roi de France ne devienne pas trop tyrannique, en fait. C'était ça l'idée. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'ordre de la guerre froide. Avec une chose très intéressante, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été créé donc avec la création de l'ONU au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un certain nombre de membres, mais à l'intérieur, vous avez le noyau dur, naturellement, qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ce sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça vous le savez, qui se sont donc taillés la part du lion. Ça, c'est tout à fait... tout à fait intéressant parce que si vous regardez le meilleur cas pour équivalent, en tout cas là où c'est le plus nettement équivalent, c'est dans l'apparition de l'État au Japon avec la mise en place du shogunat Tokugawa à partir de 1600. Le shogunat Tokugawa, donc c'est le shogunat, hein, tout simplement, le gouvernement qui est un gouvernement féodal encore, mais centralisé pour la première fois, donc là aussi équivalent Philippe Auguste, si vous voulez, c'est que avec le shogunat Tokugawa, vous avez un système qui se met en place, qui en fait est issu directement de la dernière grande guerre, et en particulier la dernière grande bataille, qui a conduit à la mise en place du shogunat Tokugawa, qui était la bataille de Sekigahara. À la bataille de Sekigahara, vous avez des gens d'un côté, vous avez des gens de l'autre, vous avez les Tokugawa d'un côté avec leurs alliés, et vous aviez en face leurs ennemis. Et dans le système du Japon unifié, donc une fois que les Tokugawa ont gagné, vous aviez deux types de grands seigneurs qu'on appelait les daimyo, et vous aviez les daimyo Fudai et les daimyo Tozama, ça s'appelait. Les daimyo Fudai, c'était les gens qui étaient proches de l'empereur, en fait, qui co-gouvernaient avec, enfin, pas de l'empereur, du shogun, et qui co-gouvernaient avec lui, en fait, qui étaient ses proches alliés. En fait, c'était ceux qui étaient déjà alliés avec lui à la bataille de Sekigahara. Et les daimyo Tozama, c'était les mecs qu'on surveillait un peu, qui étaient considérés comme moins fiables et qui étaient en second rang, si vous voulez, de préséance, et qui n'avaient pas d'avantages particuliers de part au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on se méfiait d'eux, bah, parce qu'ils étaient dans le camp ennemi à la bataille de Sekigahara. Et en fait, c'est passé la même chose avec la mise en place du système Seconde Guerre mondiale, post-Seconde Guerre mondiale. C'est que donc, vous aviez les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient le Japon, qui étaient l'Allemagne, qui eux étaient laissés en arrière-plan et qu'on surveillait comme ça un petit peu, avec même des dispositions de droit international, j'en avais parlé il y a quelques temps, qui permettaient aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale d'attaquer ces pays-là sans être emmerdés si jamais ils estimaient qu'ils étaient à nouveau en danger pour la paix. Hein. C'est la charte de l'ONU, je ne sais plus quels étaient les articles, mais je les avais ressortis sur X il n'y a pas longtemps, ça s'interprète comme ça. Virtuellement, on a le droit d'attaquer l'Allemagne si on considère qu'elle est en danger en France, parce qu'on est un membre du Conseil de sécurité permanent. Voilà. bon, politiquement, ça serait compliqué, mais c'est dans les textes. Donc, si vous voulez, voilà comment ça fonctionne. Donc, et les États-Unis ont mis ça en place depuis donc 80 ans. Ça s'est encore renforcé avec l'effondrement du principal rival, on va dire, grand feu d'artillerie des États-Unis, c'est-à-dire l'effondrement, la dislocation de l'URSS. qui est comme une sorte de, c'est comme si vous aviez un grand seigneur qui était mort tout d'un coup et que ses possessions avaient été distribuées entre plusieurs de ses héritiers. Donc celui-là a disparu. Donc vous avez un des héritiers principaux qui essaie de reprendre le contrôle des anciennes possessions familiales, c'est Poutine. Et puis en face vous avez un grand seigneur, lui, qui est en train de s'enrichir, c'est la Chine qui monte et qui à son tour conteste finalement le statut du suzerain en disant mais moi après tout je pourrais être indépendant. Donc si vous voulez, la Chine c'est un peu Charles le Téméraire, quoi. Vous voyez, c'est le duc de Bourgogne, ennemi de Louis XI, c'est-à-dire celui qui veut contester l'autorité et voir se dit que peut-être il pourrait faire son propre truc dans son coin, qui serait totalement indépendant du roi, ce que le roi ne peut pas accepter naturellement. Et donc à l'échelle mondiale, en fait, autant c'est d'une certaine manière, si je dois vous le faire court, les États-Unis donc étaient en phase féodale au 19e siècle. Phase oligarchique au XXe siècle, au XXIe siècle, ils entrent en phase absolutiste. L'ordre mondial, avec les États-Unis pour prince, est entré en phase féodale au XXe siècle, et là est probablement sur le point d'entrer en phase oligarchique. Et pour entrer en phase oligarchique, il doit obtenir des caractéristiques qui sont ceux du monarque dans la phase oligarchique, c'est-à-dire armée permanente, impôt permanent. Alors l'armée permanente, les États-Unis l'ont déjà, même s'ils peuvent essayer de la renforcer, de la restructurer dans leur rapport avec les alliés, en particulier en restructurant l'OTAN. Et impôt permanent, c'est trouver un moyen de faire financer ce système exclusivement par les autres. Voilà. Pas juste parce que pareil, hein, si vous prenez les monnaies royales, sous Philippe Auguste déjà il y avait des questions de monnaie, le droit d'émission monétaire, voire le monopole de battre monnaie, il arrive assez tôt dans la monarchie. Le droit de lever des impôts arrive bien plus tard que le droit de battre monnaie. Et donc finalement le droit de seigneuriage, donc le battre monnaie des États-Unis, clairement avec le privilège exorbitant du dollar, ça fait un moment qu'ils l'ont. Maintenant, il s'agirait pour les États-Unis de passer à la vitesse supérieure et de faire en sorte de pouvoir aussi lever des impôts sur l'ensemble du monde. Donc, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour, donc je le détaille un petit peu. Il y a une idée, et selon moi, cette idée y est, et on a eu des éléments depuis une semaine, depuis que cette vidéo est sortie, qui indiquent, qui confirment qu'il y a une volonté de Donald Trump de mettre en place un système d'imposition permanente à l'échelle mondiale. C'est donc l'idée de l'External Revenue Service, qui n'a pas encore été annoncé, qui vraisemblablement le sera, qui peut-être le sera le 4 juillet ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire au terme du délai de 90 jours, qui s'est ouvert. Et en tout cas, Donald Trump a dit que, juste après avoir annoncé sa pause là, dans les droits de douane, qu'il espérait que tout ceci trouverait un règlement à la fin de l'année, avant la fin de l'année. Et surtout, il a dit qu'avant la fin de l'année, on verrait des choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'alors. Et à mon avis, il confirme cette idée-là, qu'il veut créer un External Revenue Service qui captera des droits, des impôts, finalement, à l'échelle mondiale, sur tous les alliés, et dans le même temps qu'il va pousser la confrontation envers les ennemis, et cet ennemi, c'est en particulier la Chine, en ménageant relativement la Russie, mais avec l'idée que de toute façon, si la Chine tombe, la Russie est à poil, hein, tout simplement. Donc assez clairement, pour moi, c'est ça qui se met en place. Donald Trump a fait des indications dans ce sens-là, je crois que c'est lundi matin qu'il a dit, il y a des gens qui commençaient déjà à l'appeler à ce moment-là, mais que pour lui, de toute façon, il faudrait que ces pays-là payent annuellement des sommes très importantes. Déjà, ça veut dire qu'on commençait à parler de payer en numéraire, tout simplement. C'est-à-dire pas de droit de douane, etc., mais payer. Ont été émises également des idées par Stephen Miran, le conseiller de Donald Trump, qui a publié une note sur... je crois que j'en ai parlé en tout cas. Qui a publié une note sur sur le site de la Maison-Blanche, hein, donc c'est repris par la Maison-Blanche, dans laquelle il donnait un certain nombre de façons dont les alliés pourraient soutenir l'économie américaine, et la numéro 5, qui selon moi était la plus importante en réalité, c'était l'idée tout simplement de nous faire des chèques. Voilà. Donc pour moi, c'est ça que Donald Trump cherche à mettre en place, c'est ce système d'imposition qui colle, finalement, ce qu'ont les Romains en place, au moment où eux-mêmes entrent en phase absolutiste, d'une certaine manière, ils instauraient un système oligarchique à l'échelle du monde. Les deux se superposent. C'est le cas particulier des puissances universellement impériales, on va dire, sur la totalité du monde, comme les États-Unis. Plus précisément, enfin, disons que voilà, ça c'est le modèle que j'ai. C'est les conclusions vers lesquelles ça me pousse, c'est cette idée-là. C'est-à-dire que vous avez un Donald Trump qui actuellement est en train d'essayer de faire plusieurs choses à la fois. En fait, il essaie de faire ce qu'a fait Colbert avec ses tarifs de 1664 et 1667, mais en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la tentative de réorganisation fiscale de l'Empire américain, c'est-à-dire dire aux gens, voilà comment vous allez payer et mettre en place un espace, en fait. C'est-à-dire, je vous renvoie à la dernière vidéo que j'avais faite où j'avais montré la carte des traites d'Ancien Régime qui avait été mise en place par le tarif de 1664. C'est-à-dire faire des sphères, en fait, concentriques, si vous voulez, dans lesquelles vous allez du plus intégré économiquement au moins intégré économiquement. Donc, du moins de droits de douane au plus de droits de douane, avec l'idée qu'au centre, vous êtes dans un pur libre-échange et plus vous vous éloignez, plus vous avez de droits de douane. Ça, c'est ce qui est en train de mettre en place Donald Trump. Et très clairement, je pense que dans cet espace-là, l'idée, par exemple avec l'Europe, c'est d'aller plutôt vers un libre-échange, mais conditionné par des paiements annuels de la part des Européens. C'est-à-dire, on fait un total libre-échange avec vous, mais en plus, vous payez. Ce sera lié à ça, l'idée de l'imposition impériale. Je pense qu'on va vers quelque chose comme ça. Il y a d'autres pays plus à l'extérieur qui peut-être paieraient moins, mais qui, eux, auraient des droits de douane. D'accord? Donc ça, c'est l'aspect tarif de 1664. Réorganisation de l'espace impérial, c'est-à-dire l'espace qui est déjà tenu par les États-Unis et dans lequel ça bouge pas trop. Clairement, les gens sont des vassaux des États-Unis. Et ensuite, vous avez l'extérieur, la guerre commerciale lancée vers l'ennemi. Ça, c'est les tarifs de 1667 qui devaient déboucher ensuite sur la guerre de Hollande, qui était contre la Hollande, rival de la France, principal danger pour le pouvoir français à ce moment-là. Avec l'idée que bah, de toute façon c'est une guerre commerciale et puis s'il faut aller à la cogne de guerre, on va à la cogne carrément. Ça, c'est ce que font les États-Unis de Donald Trump avec la Chine. En même temps, vous voyez que dans la manœuvre de Trump, vous avez les deux qui correspondent à ce que fait l'État et que Donald Trump très clairement se lance dans les deux à la fois avec sa stratégie. Plus précisément, factuellement sur ce qui se fait, si on veut commenter avec des éléments d'actualité. C'est Antoine qui a dit ça l'autre jour, avec lui. Et en fait, d'ailleurs, ça s'inscrit dans le fait, vous savez, moi, ça fait plusieurs années, j'ai fait un papier là-dessus en 2018, dans lequel j'expliquais que, c'est un papier que j'ai publié dans l'Opinion, je crois, dans lequel j'expliquais que, je l'ai déjà répété ici plein de fois, la stratégie de Donald Trump, en fait, contre la Chine, c'était une reçue totale de ce qu'il avait observé faire par Ronald Reagan contre l'URSS dans les années 80, en se disant, faut tordre la Chine comme on avait tordu l'URSS. Donc, avec les trucs habituels, initiatives de défense, projet guerre d'école de Reagan, la Space Force de Donald Trump pendant son premier mandat, les embargos de technologie, etc., sur l'URSS, c'est devenu la même chose vis-à-vis de la Chine et avec les sanctions, les tarifs, etc. Donc avec l'idée de sortir la Chine de l'économie mondiale. D'ailleurs, si vous regardez tout ce qu'est en train de faire Donald Trump, il y a notamment l'idée, et c'est là que vous voyez, c'est pour ça que le fait que ce soit à la fois la stratégie 1660 et 1667, ça peut troubler un peu parce que avec un pays comme le Vietnam, les États-Unis ne peuvent pas se contenter de la suppression des droits de douane, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, et c'est ce que disait Pete Navarro, les gens l'ont commenté assez bêtement en disant qu'il racontait n'importe quoi, alors que ce qu'il disait était intelligent, mais c'était en n'écoutant pas ce qu'il disait. Ce que disait Pete Navarro, c'est qu'il disait le problème, c'est que sur 15 dollars que nous vend le Vietnam, sur ces 15 dollars, en réalité, il y a 5 dollars, c'est la Chine qui nous les vend. En utilisant le Vietnam. Et c'est vrai qu'en Chine, depuis le mandat de Trump, a énormément créé, finalement, travaillé sous faux nez au Vietnam pour vendre en contournant les sanctions américaines aux États-Unis et aussi pour exploiter la main-d'œuvre vietnamienne qui est moins chère que la main-d'œuvre chinoise d'ores et déjà. Mais donc, vu que le but américain en Asie, c'est prioritairement de faire un blocus, en fait, hein, un embargo sur la Chine, Parce qu'en fait, l'idée tout simplement de Donald Trump, c'est faire entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2011. C'était une énorme connerie, c'était une erreur colossale. Donc en fait, en pratique, les tarifs de Trump aujourd'hui sur l'aspect extérieur, lutte contre la Chine, ils visent à revenir en fait sur l'intégration de la Chine. Ils visent à faire qu'en pratique, tout se passe comme si la Chine était exclue de l'OMC. C'est-à-dire que tous les avantages qu'il y a à être dans l'OMC sur les baisses de droits de douane, etc., ben, tout ceci se soit complètement écarté. Donc c'est ça qu'essaie de faire Donald Trump à propos de la Chine. Encore une fois, resucité de la stratégie de Ronald Reagan. Et dans la stratégie de Ronald Reagan, il y a notamment eu deux trucs au plan financier, on va dire, qui sont les accords du Plaza de 1985 et les accords du Louvre de 1987, qui les deux étaient. Alors c'est des accords qui allaient un peu en sens contraire, parce que les accords du Louvre essaient de corriger les excès des accords du Plaza. Les accords du Plaza s'étaient faits pour faire baisser le dollar américain par rapport au yen et au mark allemand, parce que c'était un moment de prospérité importante à la fois pour l'industrie allemande et pour le Japon. Et donc l'idée, c'était il fallait dévaluer il fallait que le yen et le mark s'apprécient, pour que dans le commerce international, le Japon et l'Allemagne soient moins avantagés par rapport aux États-Unis. Hein, que s'il y avait un dollar fort, les États-Unis avaient trop de mal à exporter. Et donc, il y a eu ces accords qui devaient permettre de déprécier le dollar pour favoriser l'activité américaine, économique. Et ensuite, en 1987, donc il y a eu les accords du Louvre qui eux devaient revenir parce que le dollar était un petit peu en train de décrocher. Alors il fallait pas que le dollar baisse trop non plus, puisqu'il fallait que les États-Unis arrivent toujours à se financer sur les marchés. Et néanmoins, les deux éléments, donc accord du Plaza comme accord du Louvre, oui.
Mais on parle de hausse et baisse de volume assez aléatoire. Ça, le problème, c'est que je ne sais pas trop comment le gérer. Je sais pas si vous m'entendez bien.
C'est depuis le début ou ça a commencé là?
Non, ça a commencé il y a 2-3 minutes, je pense.
Ça a commencé depuis 3 minutes. Et ça le fait toujours
Ben, je sais
ou...
pas, je pose la question.
Attends, je vais essayer de... Peut-être le...
Non, mais c'est pas.
Est-ce que...
C'est pas toi. Enfin, je pense pas que ce soit toi. Moi, on me dit qu'on m'entend nickel. Enfin, moi, si
Ouais.
tu veux, je t'entends normal. Donc, clairement, le problème, il va pas de. Le problème, il est pas de toi au diffuseur, je pense.
Ah, c'est embêtant.
Parce que moi, il n'y a pas eu de problème de son dans mon retour. Donc, c'est plutôt.
Le micro a pas changé, c'est toujours le bon micro qui est. Là, ça marche bien, ça me dit. Bon, je vais faire attention. Et au début, ça l'a fait, au début de l'émission aussi, ou ça a commencé juste à 3 minutes? Bon, les gens disent que c'est bon. Ok. Bon, alors je vais essayer de reprendre. Donc, je résume ce que j'étais en train de dire sur les accords. Donc, stratégie de Donald Trump, refaire la stratégie de Reagan contre la Chine, à la fois dans ce qu'elle a de ce que ça a d'agressif, c'est-à-dire faire une espèce d'embargo retourner un petit peu vers la course aux armements, mais aussi dans ce que ça a de défensif ou du moins de prévoyant, c'est-à-dire le fait de faire en sorte que tout simplement que la doctrine Reagan soit financée. C'est-à-dire que ça demandait des efforts budgétaires importants dans le financement de l'État américain, de l'effort diplomatique, de l'effort militaire aussi. Et donc pour faire tout ça, il fallait de l'argent. Et donc il fallait à la fois que l'économie américaine se porte bien, donc qu'elle soit en croissance, etc., donc qu'elle puisse exporter. Ça, c'est les accords du Plaza 1, dépréciation du dollar par rapport au mark et au yen. Et les accords du Louvre, et en même temps que l'État américain puisse toujours se financer et que sa monnaie ne se casse pas la gueule, inversement, donc ça c'est les accords du Louvre en 1987. Mais donc ces deux accords avaient la même finalité, c'était d'assurer la prospérité américaine. Or la prospérité américaine à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il était intéressant pour le Japon et pour l'Allemagne, etc. Pourquoi tout le monde a accepté? Parce qu'en fait, dans les accords du Plaza, il y avait aussi le Royaume-Uni, la France, le Canada. Enfin, c'était les pays du G5 puis du G7. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tous d'accord? Parce que l'idée, c'était qu'il y avait un ennemi commun qui était l'URSS, qui était le communisme, qu'il fallait le faire tomber. Et donc, les alliés des États-Unis étaient prêts à faire un effort pour contribuer à l'effort de guerre, en fait, hein, qui était un effort de guerre politique aussi. Il n'y a pas eu de guerre chaude, mais c'était quand même un effort de guerre, effort de confrontation stratégique, si vous voulez, de Reagan. Ça, c'était ça, le but de ces accords-là. Et dans ce qu'est en train de faire Donald Trump, il y a aussi cet élément-là. C'est-à-dire qu'il s'agit de réorganiser, encore une fois, fiscalement, le monde libre. Hein, c'est le monde libre, le monde américain. Le G7 étendu, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, leurs alliés en Amérique du Sud, mais aussi ceux en Asie, etc., au service de l'État américain, en disant, et d'ailleurs, Trump le dit de manière très transparente, il dit, on ne peut pas faire ça juste nous, il faut que vous nous aidiez à payer. Voilà, on le fait aussi pour vous, donc vous payez. Et donc, c'est encore une fois une totale réédition de la stratégie anti-URSS, avec cette petite particularité, c'est que je pense que si Donald Trump est aussi vif, voire aussi brutal dans sa méthode cette fois-ci, c'est pas juste parce que Donald Trump veut se venger ou quoi, comme j'ai pu lire, je pense aussi et surtout que c'est parce qu'il a le sentiment d'avoir perdu 4 ans sur sa stratégie. Si vous regardez la stratégie qu'il avait commencé à mettre en place pendant son premier mandat, que vous traciez une ligne virtuelle de la hausse de la confrontation vis-à-vis de la Chine, par exemple, et que vous arrivez jusqu'à maintenant, il est probable que vous seriez arrivé au même moment s'il avait continué. Ce qui était d'ailleurs l'idée de Miran, c'est qu'il ne fallait pas aller trop vite, hein, sur les droits de douane, s'il avait continué pendant 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Sauf que pendant 4 ans, il n'a pas été là. Alors même si la stratégie a été maintenue, on va dire, par Biden, il n'y a pas eu véritablement d'augmentation. Il y en a eu quelques-unes, notamment à cause de la guerre en Ukraine, sur un certain nombre de composants, mais c'était quand même très limité par rapport à ce que fait Donald Trump. Et donc Donald Trump, finalement, est en train de rattraper son absence de 4 ans, et donc forcément, ça tape. Ça tape, ça pique énormément. Mais il y a des trucs à financer. Il faut financer justement la Space Force parce que si vous voulez aller vers une confrontation militaire à terme avec ce qui reste une puissance nucléaire, la Chine, c'est le cas aussi de la Russie, peut-être qu'avoir un vrai projet guerre des étoiles qui marche, c'est bien. À l'époque, c'était probablement hors de la possibilité technologique en 1980, mais aujourd'hui, il a Elon Musk dans les bagages. Il a SpaceX, qui est un avantage considérable. Donc, la Space Force, ça peut devenir quelque chose qui peut éventuellement permettre de dépasser la capacité, les capacités nucléaires, en fait, de dépasser l'ère nucléaire, tout simplement. Et X7 a annoncé un budget militaire. Alors, là aussi, hein, que n'ai-je pas entendu on s'est foutu de moi, d'ailleurs, pendant des... Et on s'est foutu pas que de moi, on s'est foutu surtout de Pete X7. En expliquant, ça y est, regardez, les États-Unis capitulent, Trump se vend à Poutine, ils veulent baisser le budget militaire de 40%, etc. Pete X7 avait tout de suite dit non, il s'agit de réorienter le budget militaire vers du létal, et on va arrêter de financer tout un tas de trucs qui sont pas véritablement, qui ne représentent pas de la force militaire. Hein. Je renvoie à ce que j'avais dit dans une dernière émission quand je vous avais expliqué que c'était lié au fait que si vous regardez en parité de pouvoir d'achat, l'argent est beaucoup plus dépensé vers le létal, donc vers les capacités de combat par la Chine et par la Russie. Donc les États-Unis ne peuvent pas se permettre de ne pas dépenser l'intégralité de leur budget militaire dans les capacités militaires, hein, sinon ils sont dépassés en volume, très clairement. Donc il y a ça, et en plus ils augmentent le budget, puisqu'ils monteraient à 1 000 milliards de dollars à peu près. Il était à 886 milliards de dollars, je crois, en 2024 ou 2023. Donc ça serait une augmentation de plus de 10%, hein, si on arrive à 1 000 milliards, c'est tout à fait colossal. Mais ça montre qu'il y a aussi cette volonté de déployer tout ça et de préparer la confrontation à venir avec la Chine. Hein. Là aussi, encore une fois. Doctrine Colbert, vous voyez, vous commencez par les tarifs et puis ensuite vous allez vers une guerre. La Chine, elle a des faiblesses qui sont évidentes, des faiblesses démographiques, elle a sa bulle immobilière. La Chine, elle n'achète plus de dollars depuis 2015 à peu près, n'a plus moyen. Elle les dépense, ces dollars, c'est-à-dire qu'elle avait 1 200 milliards de réserves encore à ce moment-là, c'est tombé à 700 milliards. De plus en plus, alors une bonne partie de ce pognon a été cramé dans les prêts qui ont été faits dans le grand projet de route de la soie de Xi Jinping, parce que l'argent prêté par les différents États que les Chinois ont essayé d'acheter Souvent avec des clauses léonines, avec l'idée qu'ils auraient dû, ils saisiraient des terrains si jamais les gens pouvaient plus payer. Mais enfin, au bout d'un moment, les terrains que vous saisissez ou les assets que vous saisissez, ben, faut avoir des gens pour aller les saisir. Ça peut devenir compliqué d'y aller, d'envoyer l'armée chinoise. Hein. Donc, beaucoup de ce pognon a été cramé en pure perte, d'une certaine manière, à la soviétique. Donc, il y a des failles très importantes hein, de la Chine de ce point de vue-là. Néanmoins, donc la Chine n'est pas encore totalement prête à tomber et donc elle se débat. Elle a gagné malgré tous les avantages. Elle est devenue le principal partenaire commercial d'une quantité de pays dans le monde. Vous voyez, ces jours-ci, on voit beaucoup. Je ne sais pas si tu peux la trouver, Léo. Je crois que quelqu'un l'avait partagé tout à l'heure encore dans le Telegram, mais elle est connue. C'est en gros le 2020 ou 2000 versus 2024. Vous voyez le nombre de pays en bleu et en rouge. Qui en 2020 en 2000 pardon, avait comme principal partenaire commercial les États-Unis et en rouge ceux qui ont la Chine. Et vous voyez que le ratio à l'échelle du monde s'est inversé très clairement. Donc ça, c'est un élément de puissance important de la Chine. Et donc, puis il y a d'autres problèmes aussi au niveau de la Chine. Hein. Faut pas oublier le plan militaire notamment. La Chine a jamais fait des étincelles contre les Occidentaux, en tout cas. Ça a jamais. Donc ça, c'est aussi le gros problème de la Chine, hein, parce que vous pouvez ricaner, mais lorsqu'il s'agit pour les Chinois d'envisager, alors ils peuvent être tout à fait nationalistes et penser qu'ils vont mettre une branlée aux Occidentaux. Maintenant, il reste que si on regarde le track record, bon, ben, ça a jamais. De leur côté. Ils ont bâti toute une flotte, etc. Mais bon, tradition militaire navale de la Chine, voilà, il n'y a pas un palmarès fabuleux. Tout ça compte, hein, forcément, dans ces choses-là. Donc, dans la politique actuelle qu'il y a de Donald Trump, la Chine oppose une stratégie qui est pas mal habile, même si je pense qu'elle est vouée à l'échec, mais elle peut faire des dégâts. C'est celle d'essayer de faire basculer l'Europe dans le camp finalement des contestataires de la mutation impériale de l'ordre mondial américain. C'est-à-dire, c'est l'idée, d'ailleurs, ça a été dit comme ça, hein, je crois plus ou moins. Xi Jinping, me semble-t-il, a dit quelque chose comme du genre de rejoindre la Chine dans la lutte contre la tyrannie, hein, pour de faire basculer l'Europe de ce côté-là. Et le plus inquiétant étant qu'il y a pas mal de gens dans les élites européennes qui ont l'air séduits par ce discours. Alors, ce qui ne me surprend pas tellement, parce que si vous regardez historionomiquement, la Chine, tout comme l'Union européenne, sont des anciens régimes, pas démocratiques, technocratiques. Dans lequel donc peuplé de gens qui pensent que l'administration est un signe supérieur de civilisation, que le commerce c'est bien mais il faut quand même le réguler parce que bon c'est un peu sale quand même. Il y a quand même cette idée-là qui fonctionne. Et puis des gens surtout qui ont une conception du gouvernement des sachants, du mandarinat d'une certaine manière, qui est assez similaire. Et le fait que l'establishment ne soit plus au pouvoir aux États-Unis fait que cette tendance, qui existe déjà chez beaucoup de dirigeants européens, hein, vous voyez, ça fait longtemps que des mecs comme Raffarin, par exemple, ont une espèce d'admiration comme ça pour la gestion chinoise, etc. Tous ces gens-là, à partir du moment où ils sont plus tenus, ils n'ont plus leur maître habituel à Washington, bah, ils ont tendance à basculer de là où est leur cœur, finalement, c'est-à-dire en direction de la Chine. Sauf que ça me paraît extrêmement problématique, parce que malgré tout, il y a une unité culturelle de l'Occident qui fait que bah, on n'est pas du tout le même monde que la Chine, pour le coup, et il ne suffit pas qu'il y ait un changement d'élite dirigeante aux États-Unis et que ce soit Donald Trump qui arrive au pouvoir pour que tout d'un coup on soit plus culturellement ou plus naturellement des alliés de la Chine que des États-Unis. Et donc je pense que cette stratégie ne fonctionnera pas, mais elle peut faire des dégâts parce que ça va, à partir de mesure où la confrontation entre la Chine et les États-Unis va se renforcer, la Chine aura de plus en plus un intérêt convergent avec la Russie pour faire éclater l'Union européenne. Si elle voit qu'elle ne peut pas la faire tomber dans son escarcelle, pour la faire éclater. Et à ce moment-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un soutien de plus en plus important de la Chine aux ambitions russes en direction de l'Europe, parce qu'il y aura une convergence totale, en fait, qui n'était peut-être pas exacte jusqu'à maintenant, mais il y aura à ce moment-là une convergence totale des intérêts russes et chinois qui serait de déchirer, en fait, l'Europe, si possible, la faire plonger dans le chaos, pour que les États-Unis soient au moins privés comme alliés, c'est-à-dire que l'Europe soit à minima neutralisée, en fait. Hein, c'est ça l'idée maîtresse, si vous voulez, de ce que je pense. Et donc, dans le cadre de la confrontation mondiale, ça va renforcer ce mouvement. Et de toute façon, on est arrivé à un stade où tout ce qui peut être fait pour prévenir la confrontation va en fait servir l'avènement et le renforcement de la confrontation. Là, en l'occurrence, il est vraisemblable que Donald Trump espère faire tomber la Chine comme l'URSS sans qu'il y ait à combattre. Bon, je rappelle quand même que l'URSS, il a quand même fallu combattre un peu, hein, notamment en Afghanistan. Alors, vous voyez, les Américains n'ont pas eu à se battre en Afghanistan, mais il a fallu aller dans ce secteur-là. Puis il y avait eu Tchernobyl. Hein. Bon, les Chinois ont eu le Covid qui a quand même fait pas mal de mal pendant quelques années, mais voilà, on voit que, à mon avis, ça fait partie des limites de cette stratégie Reagan, parce que la stratégie Reagan, mine de rien, elle bénéficiait aussi des fruits de la stratégie Nixon, qui avait été de détacher la Chine de l'URSS. Or, là, Donald Trump aimerait détacher la Russie de la Chine, mais n'y arrivera pas. Et il y a un impérialiste revanchard dans l'équation, c'est Vladimir Poutine. Et ce que Reagan n'a eu à gérer nulle part. Donc, à mon sens, voilà vers quoi nous allons. Je continue de dire donc qu'il y a un plan de la part de Donald Trump. Et encore une fois, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent: Ah, ben oui, alors ça, tout de suite, Trump est un génie, etc. Non, déjà, le problème, c'est que si vous pensez que c'est un gros débile, et que dès que quelqu'un vient de dire que non, il n'est pas débile, je veux dire, les gens sont tellement persuadés qu'il est idiot que. En fait, et c'est peut-être force de Donald Trump d'avoir l'air moins intelligent qu'il n'est, probablement. C'est-à-dire que leurs attentes sont tellement bas qu'ils n'arrivent pas à concevoir que simplement il a un plan tout à fait sommaire. Alors soit vous pouvez être d'accord avec les buts poursuivis par Donald Trump, mais contester son plan en disant je pense que ça ne marchera pas pour telle et telle raison, mais voire même c'est idiot pour telle et telle raison. Vous pouvez dire aussi le but qu'il poursuit est inique, hein, j'en sais rien, c'est un scandale, il faut juste maintenir l'ordre international tel qu'il était, ça marchait très bien, etc. Vous pouvez dire ça. Mais dire simplement que Donald Trump n'a absolument aucun plan et ne sait pas où il va, ça me paraît une grosse bêtise. Il est assez clair que Donald Trump a une idée grosso modo de où il va aller et il agit en essayant d'aller dans cette direction. Et grosso modo, je pense que ce qui se passe depuis 10 jours va grosso modo dans le sens dans lequel il veut aller, hein, puisque malgré tout, l'essentiel des pays du monde, encore une fois, ont cherché à négocier avec les États-Unis, même en Europe, malgré tout. Donc on est sur cette espèce de situation d'équilibre. Mais voilà, c'est-à-dire tous les gens qui disent que je ne pense pas qu'il ait paniqué face à la montée des taux obligataires, il a fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il prend une décision très brutale, il laisse mariner pendant une semaine, et ensuite il revient. Voilà, c'est, je veux dire, là encore, hein, excusez-moi de le redire, mais les gens qui ne sont pas dans le vrai monde, ce qui est malheureusement souvent le cas des politiciens comme des journalistes qui n'ont jamais travaillé, ignorent que ça, c'est le genre de choses qu'on fait tout le temps. Faire des actions qui peuvent paraître très brutales, même les autres vont gueuler, c'est dégueulasse ce que vous me faites, hein, moi je le fais tout le temps, hein, de lancer des procédures qui vous servent juste à accélérer une autre procédure. Donc les gens hurlent, mais oui, mais enfin, en attendant, du coup, maintenant la balle est dans ton camp. Hein. Mais même vous, ça doit vous arriver, je veux dire, si vous avez un problème avec votre bailleur, que tout d'un coup vous refusez de payer jusqu'à ce que la chaudière soit. Bon, ben c'est pareil, si vous voulez. C'est ce que vous faites avec les enfants aussi, quand vous leur mettez une punition, puis s'ils sont sages, vous levez la punition, mais en leur disant bien qu'ils sont en sursis. Bon, c'est ce que fait Donald Trump. Mais Donald Trump, en plus, je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas, parce qu'il fait tout le temps la même chose. Il l'a fait 2 fois à Zelensky au mois de février-mars. Première fois, il fait l'accord est sur le point de signer avec Zelensky. Zelensky déclare publiquement qu'il ne va pas le signer, alors qu'il avait déclaré en privé à Rubio qu'il allait le signer. Résultat, Donald Trump le traite de dictateur. On le laisse mariner une semaine, et ensuite on lui dit c'est bon, tu peux venir, on va signer. Là, Zelensky refait son cirque dans le bureau ovale, hop, on lui coupe l'aide militaire pendant une semaine. Et ensuite, Zelensky envoie son petit message d'excuse sur Twitter, hop, on remet l'aide militaire, puis on rediscute. Voilà. Il fait ça à chaque fois. Et il l'a fait aussi avec des tarifs, même si en général, il ne les a pas laissés une semaine avec Mexico, avec le Mexique et le Canada, mais toujours pareil. On met et ensuite on lève, et le temps de discuter. Et puis si la discussion n'avance pas, hop, on remet un petit coup de pression. Il le fait à chaque fois. Donc, m'expliquer que cette fois-ci, c'est parce qu'il y a eu une envolée des taux obligataires qu'il est revenu en arrière. C'est pas rationnel de faire ça. Je veux dire, si un type fait toujours la même chose et qu'une nouvelle fois il fait la même chose et que vous dites que cette fois-ci c'est pour une raison particulière, ben c'est pas rationnel. Je veux dire, c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait trouver une explication ad hoc à chaque fois. Donc il faudrait trouver 4-5 explications pour à chaque fois trouver le même résultat. Ça ne respecte pas le principe de parcimonie. Le principe de parcimonie veut que si vous observez toujours la même chose, c'est toujours la même cause. Hein. Il n'y a pas une cause différente à chaque fois qui vous produit systématiquement le même effet. Et cela d'autant moins, encore une fois, que la rumeur du fait qu'il allait y avoir une suspension des droits de douane est apparue aux États-Unis le lundi matin. Et elle disait, j'avais lu un article sur Yahoo Finance à ce moment-là, elle disait que la rumeur était celle d'une annonce de la suspension pour mercredi. D'accord? C'était avant que les taux obligataires s'envolent. Les taux obligataires se sont envolés dans la journée de lundi et surtout la journée de mardi. Donc après cette annonce-là, le mercredi arrive et là Donald Trump annonce la suspension. Je suis désolé, il n'y a pas eu de. C'était planifié. Il s'est passé ce qui avait été dit qui se passerait. Donc, même s'il n'y avait pas eu d'envolée obligataire, vraisemblablement, il l'aurait dit. Surtout que les autres fois, quand il y avait eu des rumeurs comme ça, à chaque fois, c'était effectivement ce qui s'était passé derrière. Donc, c'est peut-être même la Maison-Blanche qui avait laissé filtrer le truc pour que les gens se rassurent, en sachant que de toute façon, ça serait suspendu. Et donc, quand c'est arrivé, ça n'avait absolument rien de surprenant parce que Donald Trump fait ça à chaque fois. Il fait ça à chaque fois. Et je pense, par contre, que la négociation va se poursuivre qu'elle va dans le sens de ce que j'ai décrit dans la dernière émission et que j'ai essayé de détailler un petit peu aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos aujourd'hui. Si quelques éléments, je veux dire que Terra m'a donné tout à l'heure, qui sont des éléments d'appréciation intéressants et qui sont à avoir en tête en tout cas quand on analyse la stratégie de Donald Trump, c'est qu'apparemment il m'a dit les indicateurs globaux de conditions de marché indiquent une bonne phase de croissance jusqu'à la fin de l'année, voire début 2026. Donc a priori, les fondamentaux économiques sont là pour pas que les choses se cassent la gueule. Donc, véritablement, passer la panique boursière de quelques jours, qui encore une fois a touché surtout les 10% d'Américains qui détiennent 90% du marché actions, voilà, c'est pas une catastrophe. Ensuite, à partir du moments où les droits de douane ont fait plonger les marchés à un moment où ils n'étaient pas censés plonger, bah, du coup, ça veut dire qu'ils vont remonter pendant plus longtemps. Et donc, ça donnera une meilleure image sur le long terme de Donald Trump. Et il peut arriver au mid-terme, au contraire, avec l'impression que le marché aura cru pendant longtemps, alors qu'en fait, à la base, il se sera cassé la figure. Et donc, toute une partie sera juste été de la récupération. Mais ça fera des jolies courbes, quoi. Peut-être que la Fed va finir par baisser les taux d'intérêt, ce qui était une chose récemment que cherchait Donald Trump. Donc, il est vraisemblable que ce que va pouvoir faire Donald Trump, c'est regarder donc le marché qui remonte tranquillement après les tarifs et donc expliquer, bah, regardez, vous voyez, du coup, j'ai fait les tarifs, mais le marché a continué à monter, popop, j'ai gagné. Non, non. Ça, c'est, voilà, semble-t-il, des éléments économiques qui sont pris en compte. En tout cas, je ne peux pas croire qu'un type comme Scott Bessent, qui connaît bien les marchés financiers pour y avoir fait toute sa carrière, mais qui a quand même bossé avec Soros notamment, qui est pas manchot là-dessus, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas ça, savait ce qu'il faisait. Voilà, donc j'en ai terminé. Léo, donc est-ce qu'on a des questions donc?
Il y a des questions.
Il n'y a pas eu d'autres problèmes de son?
Je crois pas.
D'accord.
Prince Joachim Murat Ier a fait un don pour dire que c'était passionnant et il a dit
Merci.
Ave César. Il a posé une question mais qu'on posera dans le live privé. Adrien Fistule a dit bisous.
Bisous.
Et Stéphane Ducot dit, ce cirque de l'UE va-t-il durer longtemps? On en vient à souhaiter la ruine de l'UE et de la Ve République pour espérer que tout cela cesse. En tout cas, continuez comme ça, vos émissions sont super.
Merci. Alors, durer longtemps, ça durera tant que ce sera ces élites-là qui dirigeront l'UE, je crains, malheureusement. Et je pense que les troubles dont je parlais, qui seraient fomentés par la Chine et la Russie, favoriseront le processus révolutionnaire en Europe même, probablement.
Petite question chouard avant de passer au live privé, Jules
Allez.
Kesset, quid de l'Inde dans ce jeu?
L'Inde, je pense qu'elle essaiera de plaire aux États-Unis, en particulier parce que la bonne partie de la stratégie de l'Inde, c'est de devenir la nouvelle Chine. Et donc, devenir la nouvelle Chine, c'est notamment devenir l'atelier du monde à la place de l'atelier du monde, hein, sans doute. Et ça implique d'avoir le marché américain, parce que c'est ce qu'avait fait la Chine. Et donc, tout poussera l'Inde à aller du côté américain plutôt que chinois. D'ores et déjà, il y a eu beaucoup de contacts dans ce sens. Et je pense que ça va d'ailleurs beaucoup agacer les Chinois. Et il n'est pas impossible que, vous savez, j'avais dit à l'entrée de l'hiver que je pensais qu'au printemps, on verrait renaître les tensions entre l'Inde et la Chine dans l'Himalaya. Ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait venir au fur et à mesure que les tensions vont s'exacerber. Très bien. Écoute, c'est super. Je vous remercie d'avoir été là avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous soutenir. N'hésitez pas à voir toute l'offre de contenu supplémentaire qu'on propose à côté. Ça peut vous permettre de gagner 4, 5, 6 heures, ça dépend, de contenu supplémentaire par mois, si ça vous intéresse. Donc regardez ça et puis allez voir les bouquins aussi. Les bouquins, je vois que c'est pas El César qu'il y a aujourd'hui. Je rappelle que El César est là. C'est de ce bouquin que j'irai parler demain normalement. Portez-vous bien et vous laissez pas faire.